Et tu fais quoi dans la vie ? Une question à laquelle on répond souvent, mais pas foncièrement. Un temps d'échange à la rencontre de professionnels qui nous parlent de leur métier, de leur parcours, de la réalité du terrain. Une façon de découvrir ou redécouvrir une profession, et pourquoi pas même se découvrir une vocation. Bonjour et bienvenue dans notre émission « Et tu fais quoi dans la vie ?». Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Quentin qui va venir nous parler de son métier, de son parcours.
Bonjour Flavie.
Bonjour Quentin. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, pour commencer, de te présenter en quelques mots sans encore nous dévoiler ta profession ?
Alors, je m'appelle Quentin, j'ai 36 ans et je fais un métier passionnant.
Donc, écoutez, enchanté Quentin. Et donc Quentin, tu fais quoi dans la vie ?
Alors, je suis otorhino-laryngologiste et chirurgien cervico-facial.
C'est très précis. Est-ce que pendant cette émission, on peut t'appeler chirurgien ORL ou tu veux qu'on dise tout ?
On peut dire ça, c'est un bon raccourci.
Choisis si tu veux ton intitulé.
Souvent, on dit chirurgien ORL.
Chirurgien ORL, parfait. Et est-ce que tu pourrais donc nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton métier ?
Alors, c'est une spécialité qui est double, à la fois médicale et chirurgicale. Donc, la partie médicale avec les pathologie des oreilles, du nez et de la gorge, et la partie chirurgicale avec la prise en charge de ces mêmes pathologies, ainsi que les pathologies du cou et de la face.
D'accord. Et donc, c'est vrai que c'est un métier très spécifique. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton cheminement jusqu'à ce métier ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça ? Et cette spécialité ? Et quel a été ton parcours justement pour
alors,
en arriver là ?
C'est un parcours très long, comme vous pouvez vous en douter, hein, parce qu'il y a des années et des années d'études. Donc moi j'ai commencé mes études de médecine par un tronc commun. Petite particularité pour moi parce que j'ai fait un petit passage par la médecine militaire avant. Comment j'en suis arrivé à choisir les études de médecine ? Je dirais que ça s'est fait un peu naturellement. J'ai toujours un peu baigné dans le milieu médical. Et qu'au moment de faire un choix de carrière, ça s'est un peu imposé naturellement à la suite d'études scientifiques au lycée. Donc j'ai commencé mes études de médecine en première année à l'école du service santé des armées. J'ai choisi de ne pas prolonger ma première année là-bas. Donc à l'époque, c'était une année de ce qu'on appelait aujourd'hui la PACES. Et j'ai donc fait, comme beaucoup de monde, cette année deux fois, voilà, avec une première année, on va dire, pour apprendre à travailler. S'en est suivi, du coup, les années de tronc commun, donc six années de médecine.
Donc une première année réussie permet de poursuivre le parcours. Hein.
Exactement, ouais. Exactement, avec ce socle commun aux études médicales qui durait à l'époque en tout cas six ans. À la suite de quoi j'ai passé le concours des épreuves classantes nationales, ce qu'on appelle dans notre jargon le concours de l'internat, où j'ai pu choisir ma spécialité et une ville de formation. Et c'est là que j'ai choisi l'otorhino-laryngologie et la chirurgie cervico-faciale à Clermont-Ferrand, en Auvergne, car j'avais fait mes études au préalable à Lyon, à la faculté Lyon-Sud. Et cette spécialisation a duré 5 ans. Où je me suis formé, du coup, chirurgicalement, médicalement, à ces études spécialisées. Donc, on finit en parallèle son doctorat de médecine et on passe un diplôme d'études spécialisées, pour ma part, en otorhino-laryngologie, chirurgie cervico-faciale. À la suite de quoi, ce n'est pas fini, car nous sommes à 11 ans d'études et il faut rajouter 2 ans à mon époque de formation de ce qu'on appelle de post-internat, qui peut être soit sous la forme d'un clinica ou d'un assistanat. Moi, j'ai réalisé un assistanat de 2 ans, cette fois-ci, où je suis parti sur l'île de la Réunion pour me former plus spécifiquement à la prise en charge des pathologies chirurgicales et traumatologiques de la face. Voilà. Pendant ce parcours donc, de 13 ans, il y a eu encore d'autres formations et je continue encore aujourd'hui à me former avec la réalisation de certaines formations un peu plus spécialisées car la spécialité est très vaste et il nous faut choisir parfois certains angles d'action et d'angles de surspécialisation. Et pour ma part, je me suis formé à la cancérologie de la face et du cou et surtout ces dernières années à la prise en charge esthétique et reconstructrice de ces mêmes pathologies de cancérologie et enfin je tends à me spécialiser de plus en plus vers les pathologies du ronflement et du sommeil.
Ok, bravo pour ce parcours. Et c'est vrai que finalement ça fait quelques années que tu fais ce beau métier, ça fait combien de temps ? Ça fait 13.
Alors que j'ai fini mes études, donc j'ai commencé, c'est simple, hein, j'ai passé mon bac en 2007, ouais. Nous sommes en 2025, donc voilà, ça fait quand même quelques années, et je travaille officiellement à mon compte depuis maintenant 3 ans.
3 ans. Et donc, c'est vrai que tu as dû avoir des dynamiques de vie différentes. Mais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'organisent tes journées ? À quoi ressemble la journée type d'un chirurgien ORL ?
Alors, c'est très varié, parce qu'on a cette double casquette médico-chirurgicale. Donc, il y a des journées où je ne fais que des consultations et des journées où je ne fais que de la chirurgie et parfois des journées un peu hybrides où je vais être en consultation le matin et au bloc opératoire l'après-midi. Alors ça, c'est pour mon activité propre, c'est différent pour chacun de mes confrères. Mmh. Mais pour ma part, c'est comme ça que je fonctionne. J'opère un jour et demi par semaine et je consulte 2 jours et demi par semaine.
Ok. Oui, tu as fait le choix du libéral.
Oui.
C'est ça, mais on peut travailler dans différents types de structures.
Exactement. On peut très bien travailler soit en libéral comme moi et ne faire qu'une activité médicale pure et dure, comme on peut faire une activité aussi médico-chirurgicale en libéral, c'est ce que je fais moi. Donc je travaille au sein d'une clinique et je consulte à côté dans un cabinet pas très loin de cette clinique. Mais on peut très bien aussi l'envisager sous un angle purement hospitalier avec certains de mes confrères qui ne travaillent qu'à l'hôpital public.
Donc aujourd'hui, tu travailles seul, mais pas que. Tu es aussi en équipe.
Exactement. Donc je suis associé avec un collègue et ami. Et nous avons dans notre cabinet la chance de travailler avec deux belles personnes, à savoir ma secrétaire et une assistante médicale qui nous aide du coup à la réalisation d'examens médicaux et paramédicaux pendant le temps de la consultation afin de pouvoir voir plus de gens plus rapidement.
Super. Mais c'est vrai qu'on a vu que tu t'étais... diversifié, mais au-delà de ça, si on reprend la base, ORL, donc c'est O pour auto, l'oreille,
exactement.
R pour rhino, le nez, et L pour laryngologie,
exactement.
Pour la gorge. Et donc, tu dois forcément étudier tout ça, mais est-ce que tu as une préférence ou est-ce que quand on est ORL, on doit aimer les trois ?
C'est impossible, à mon sens, aujourd'hui, en 2025, de faire les trois. On a forcément une préférence. Hein. On
c'est
est
quoi
des humains.
Ta préférence ?
Moi, je suis beaucoup plus sur la partie R, hein, donc la rhinologie et les pathologies du nez et des sinus, que ça aille des pathologies, je dirais, respiratoires, tout simplement les gens qui ont du mal à respirer car le nez n'est pas droit à l'intérieur, mais aussi les pathologies sinusiennes chroniques avec les maladies des sinus, ce qu'on appelle classiquement, nous, les polyposes nasosinusiennes, donc les gens qui ont des polypes dans les sinus. Je m'intéresse aussi principalement à la chirurgie faciale, donc la chirurgie de reconstruction de la face, principalement pour moi, avec les reconstructions des tumeurs cutanées de la face. Donc, c'est-à-dire qu'on enlève une lésion cancéreuse au niveau du visage et on ne peut pas laisser cette lésion sans la reconstruire. Donc derrière, on doit modifier l'anatomie du visage pour amener de la peau et restaurer un visage d'allure et d'aspect normal.
Super. Donc, une préférence pour le R. Pour autant, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier aujourd'hui, dans les aspects de ton métier ?
Bah, c'est ce qu'on disait auparavant, c'est que c'est un métier extrêmement varié. Une consultation qui est toujours vraiment, vraiment variée, que ce soit par le type de pathologie, que ce soit par le type de patient. On voit vraiment des gens de tout âge, hein, de la personne âgée, des enfants, monsieur et madame, tout le monde, je dirais. Donc c'est vraiment hyper, hyper intéressant. Et surtout, on peut vraiment, entre guillemets, je dirais, faire de la bobologie avec des consultations assez faciles où on a un rôle de réassurance envers les personnes, et comme des consultations où vraiment on découvre des cas extrêmement compliqués avec vraiment des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et on doit ouvrir de nouveau les bouquins pour chercher pourquoi telle pathologie est rare et se creuser un peu plus la cervelle. Donc c'est vraiment hyper stimulant intellectuellement et humainement parce que on a un rôle central quand même dans la vie des gens, et beaucoup de gens sont allés voir un ORL dans leur vie et souvent pour un problème précis qui est très souvent solvable. Donc on apporte, je l'espère, le plus souvent des solutions aux problèmes des gens qu'on parvient à soigner la plupart du temps.
Oui, c'est vrai que la part du relationnel doit être assez grande dans ce métier-là.
Énormément, énormément. Il y a une grosse part émotionnelle dans les pathologies, que ce soit de l'oreille interne, les pathologies fonctionnelles du larynx. Et c'est vrai que une grande partie de notre travail, je dirais, c'est le temps de l'interrogatoire où on va beaucoup discuter avec les gens pour déjà essayer de cerner le problème, de cerner la genèse de ce problème, pourquoi, quand est-ce qu'il a commencé, et surtout essayer de trouver comment, quelles sont les clés pour solutionner ce problème.
Et pour que l'on s'intègre encore un peu plus dans ton univers, est-ce que tu pourrais nous partager quelques éléments très concrets de ton quotidien ? C'est-à-dire un mot ou une expression que tu utilises tout le temps, presque sans t'en rendre compte ?
Oh, y a plein de mots parce qu'il y a plein de patients différents, mais moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est lors des consultations pédiatriques. Donc, on voit souvent des enfants pour faire ce qu'on appelle des cautérisations nasales, donc des enfants qui saignent beaucoup du nez. Et moi, j'utilise un produit chimique hein, qui n'est pas très joli à voir. Et je mets un petit bout de coton sur ce produit et je leur dis tout simplement que je vais faire de la peinture dans leur nez. Donc, je vais faire du coloriage dans leur nez. Donc, je leur montre comment je fais mon petit pinceau et comment je le trempe dans ce produit magique qui va aller à l'intérieur de leur nez. Ça, c'est une petite phrase que j'aime bien dire aux enfants parce que ça dédramatise la chose. On leur parle un peu de choses qu'ils connaissent, de leur environnement. Et pour la partie, je dirais, plutôt des adultes que je vois, donc parfois des personnes très âgées et plus jeunes, hein, ils se posent toujours un peu sur la chirurgie de la face, bah, la question de la cicatrice. Donc, comment on va faire pour cette cicatrice? Et il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que le chirurgien, il est responsable que de la moitié de la cicatrice. C'est-à-dire que oui, le chirurgien va faire la cicatrice, mais cette cicatrisation, avec le temps, va s'atténuer. Et surtout parce que les patients vont prendre soin et intégrer leur cicatrice à leur schéma corporel, et surtout en la massant, en y prenant, un soin particulier, eh bien, on peut arriver tout à fait à faire diminuer cette cicatrice, même au niveau du visage.
Ok, super. Et au niveau d'un... Est-ce qu'il y aurait aussi un geste, au-delà d'un mot, un geste qui montre que... On sait que tu es chirurgien oral quand tu fais.
Ah, il y a plein de trucs, mais nous, on adore mettre des tuyaux dans les trous de nez. donc, c'est vrai que moi, mon geste, c'est la spécialité des orifices. Hein. Alors oui, le geste que je fais le plus, c'est certainement de mettre une petite caméra dans le nez des gens et d'aller mettre un petit écarteur dans les oreilles des gens pour aller regarder. Ouais. Ça, c'est pour l'aspect médical. Pour l'aspect chirurgical, je dirais, il y a des gestes très ritualisés, comme le lavage de mains, qui sont des gestes très protocolisés, qu'on fait de manière, je dirais, sous-corticale, sans trop réfléchir.
Machinalement, oui, bien sûr. Donc, des tuyaux, du coton, rassurer des patients. Il y a quoi d'autre dans le kit de survie du chirurgien ORL ?
Du café, parce que c'est un métier quand même où on peut commencer très tôt et finir très tard. Il y a tout ce qu'il faut, dans la trousse d'urgence, je dirais, tout ce qu'il faut pour faire arrêter un saignement de nez. Ça reste quand même les pathologies les plus fréquentes qu'on a dans nos urgences. Et il y a un petit aspirateur. Un petit aspirateur, parce que nous, on aspire dans les oreilles des gens, sans quoi on peut pas bien voir le tympan. Donc, je dirais un petit aspirateur et des mèches à mettre dans le nez.
Ok, ça marche. Et tu écoutes de la musique quand tu opères ou tu préfères travailler en silence ?
Ça dépend des fois, mais j'aime bien mettre de la musique quand même.
Bon, on s'accorde une petite pause musicale justement avec un morceau choisi spécialement par Quentin. À tout de suite.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories.
memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your.
Calade. Et tu fais quoi dans la vie ? De retour dans Et tu fais quoi dans la vie en compagnie de Quentin, donc qui est chirurgien ORL, etc. Parle-nous, s'il te plaît, maintenant des qualités humaines qu'il faut pour bien exercer et puis, de manière générale, les compétences indispensables.
Alors, je dirais les qualités humaines. Je pense que la qualité principale d'un médecin, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut savoir se mettre en face du patient, de comprendre un peu ce qu'il ressent, sans forcément aller trop dans son sens, dans la sympathie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément partager ses douleurs et ses peines, mais au moins les entendre. Ça, je dirais, c'est pour l'aspect humain. Après, pour l'aspect technique, je pense qu'il faut beaucoup de patience, à mon avis. Il faut quand même des qualités de discernement, où il faut savoir écouter, il faut savoir faire le tri dans les informations qu'on reçoit. Et surtout, eh bien, il faut aussi savoir mener à l'interrogatoire. Il faut réussir à interroger les patients, à savoir encadrer parfois certaines demandes. Et il faut être, pour ma part, très méticuleux, parce qu'on fait des chirurgies avec des zones dangereuses, notamment on opère, pour ma part, pas très loin du cerveau, pas très loin des yeux, avec des gros vaisseaux aussi, comme la carotide interne qui passe pas très loin.
Ok. Et c'est vrai que j'aimerais revenir sur un point qui, personnellement, m'a toujours interpellée, c'est l'aspect, la chirurgie, en fait. L'idée même d'ouvrir un corps, c'est vrai que ça impressionne pas mal de gens, voire ça effraie beaucoup de gens. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est apte ou pas à devenir chirurgien ? Est-ce qu'il y a des traits de caractère, une façon d'être au monde qui rendent ce métier plus évident pour certains que pour d'autres ?
Alors, honnêtement, je pense que le seul moyen d'être apte et de savoir si on peut devenir chirurgien, c'est de passer par la case études de médecine et stage en chirurgie. Moi, j'étais pas forcément parti pour faire ça, et je me suis trouvé tellement à l'aise dans un bloc opératoire. Ça m'a pas effrayé, j'ai adoré, j'ai eu cette, appétence à voir ce qui se passait à l'intérieur de l'humain. Ça m'a pas effrayé, au contraire, ça m'a hypnotisé, je dirais, quelque part. Donc, le seul moyen de savoir si on est apte à devenir chirurgien, à mon sens, c'est de passer par les études médicales pour savoir si ça nous effraie pas. Ensuite, pour la deuxième partie de la question, qui était, si tu peux me le rappeler ?
C'était ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des prédispositions ou non à faire ce métier ? Toi, tu penses que c'est le test, mais tu ne penses pas qu'en amont, il y a des choses que vous avez peut-être en plus, ce petit supplément d'âme qui fait que vous pouvez être là où vous êtes ?
Je pense qu'il y a peut-être au contraire un petit manque d'âme parfois, clairement. Il faut, on est obligé de pas être trop dans le regard, c'est-à-dire que certes, on est face à des humains, on travaille sur de l'humain, mais parfois, il faut, je dirais, automatiser les choses, pas comme un robot, bien sûr, mais il faut voir un corps, il faut voir un spécimen anatomique. Donc, peut-être qu'il faut pas être aussi humain et savoir se détacher. Je pense qu'il faut beaucoup de recul. Donc, peut-être aussi des personnalités parfois un petit peu froides, un petit peu distantes, sont plus adaptées à faire ça. Moi, pour ma part, j'arrive assez facilement à dissocier, je dirais, l'humain que je vais voir à la consultation du patient, du modèle anatomique que j'ai sur la table d'opération.
Donc pas de part de folie criminelle en vous ?
Absolument pas, absolument pas. Et c'est vrai que il y a des profils très dangereux chez nos confrères chirurgiens. Par le passé, on a tous entendu des histoires de gens totalement mégalomanes avec des trucs horribles, des gens qui se sont permis de faire des trucs indécents sur le corps de leurs patients. Mais tout ça, ça a plus lieu d'être aujourd'hui.
Mais c'est vrai que parfois, il y a une prise de pouvoir sur ces jobs-là, qu'on a pu entendre tous quand tu parles d'histoire, un petit peu des légendes urbaines. C'est vrai que parfois, il y a un peu une couronne sur la tête des chirurgiens, parce que justement, tout le monde n'est pas apte à ça. Est-ce que toi, t'es confronté à ça parfois ?
Non, honnêtement, je pense que c'est un peu une vision du passé, si je puis me permettre. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tout à fait désacralisé, que ce soit dans, dans les mondes hospitaliers. Le chirurgien n'est plus l'être tout-puissant qu'il pouvait être avant. C'est des générations qu'on changé parce que les mœurs ont changé et que notre éducation a changé pendant nos études et notre formation. Très honnêtement, aujourd'hui, on est des êtres plutôt accessibles, plutôt, je dirais, lambda dans l'hôpital et dans les cliniques. Voilà. On n'est pas tout le monde, c'est sûr qu'on reste quand même des profils très particuliers avec, voilà, on a ce pouvoir d'intervenir sur le corps qui n'ont pas forcément d'autres spécialités médicales. Néanmoins, je pense que voilà, le graal du chirurgien avec cette toute puissance, c'est terminé aujourd'hui. En tout cas, pour les gens de ma génération, c'est terminé et je pense que c'est une bonne chose.
Ouais. Et comment ton métier donc, a évolué ces dernières années ? Est-ce qu'il y a des innovations, de la technologie peut-être qui t'enthousiasme particulièrement ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la robotique. Nos spécialités en fait partie. On n'est pas forcément la spécialité où les robots sont le plus utilisés. Néanmoins, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Un exemple concret, je dirais que c'est vraiment la chirurgie robotique pour la prise en charge des cancers de la langue principalement et de certains endroits de la gorge, pour faire simple, où en fait avant on était obligé d'ouvrir carrément, de couper la mâchoire des gens en deux pour y accéder. Aujourd'hui, avec des écarteurs et des instruments très fins de robotique, on peut découper ces cancers de manière beaucoup plus sélective, avec des suites post-opératoires plus simples. De manière globale, je dirais qu'aujourd'hui, la révolution en chirurgie, c'est la chirurgie mini-invasive. C'est-à-dire que par des voies d'abord beaucoup plus simples, avec des méthodes d'instrumentalisation beaucoup plus fines, on arrive à travailler dans des endroits plus profonds, sans forcément avoir des incisions qui permettent d'y accéder. Okay. Voilà, c'est principalement ce qui a changé. Après, aujourd'hui, voilà, le grand débat en médecine, c'est la place de l'intelligence artificielle. Honnêtement, c'est une aide. C'est une aide, je pense que ce sera une aide, c'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. Ce sera une aide pour notre futur, pour notre diagnostic, je dirais, pour simplifier les procédures de standardisation administrative. Tout ça, ça va être hyper utile. Après, l'IA remplacera jamais un chirurgien. Voilà, c'est pas ChatGPT ou une autre IA qui ira opérer les gens. Par contre, pourquoi pas détailler des procédures, c'est-à-dire voilà, voir un petit, même médical, c'est-à-dire que peut-être sur des choses un petit peu, je dirais, des cas un peu particuliers, ça va permettre de faire des revues de la littérature plus complètes, de voir s'il y a déjà des choses qui ont été décrites dans ce sens-là. En fait, c'est le rôle du machine learning, c'est-à-dire c'est d'apprendre et d'ingérer beaucoup d'informations que l'être humain n'est pas capable de faire en un temps de vie.
Est-ce qu'il y a une question qui revient souvent quand tu parles de ton métier ?
Oui, c'est est-ce que je peux avoir un rendez-vous ? Non, bien sûr, je rigole, mais c'est vrai que c'est peut-être la question qui revient le plus. Comment je dois me nettoyer les oreilles ? C'est à peu près le truc qui revient le plus souvent.
Et tu peux nous répondre ?
Alors oui, bien sûr. Alors surtout, il ne faut pas utiliser de coton-tige. Les coton-tiges ne sont pas faits pour être mis à l'intérieur des oreilles des gens. Au contraire, ça peut créer des traumatismes dans l'oreille externe et des infections. Et bien sûr, c'est générateur de bouchons de cérumen. Donc je dirais que les oreilles sont auto-nettoyante, elle se nettoie avec votre corps quand vous lavez la tête, les cheveux, et le cérumen est une couche protectrice qui va être un filtre naturel pour que les bactéries de l'extérieur ne viennent pas dans la peau de l'oreille.
Ok, bah c'est parfait, j'espère que vous avez pris note. C'est vrai que c'est un métier exigeant qu'on imagine passionnant. Vous soignez, vous restaurez, vous améliorez quand même la vie des gens. Vous pouvez leur rendre leur voix, leur audition, leur respiration, leur visage parfois, si j'ai bien compris.
Exactement. Oui.
Et c'est quoi finalement la plus belle réussite et satisfaction de ton métier ?
Ah, c'est difficile, c'est variable. Mais oui, je dirais c'est de guérir, hein, clairement. C'est de soigner les gens arrivent avec un problème qu'on arrive à solutionner avec une intervention. Et c'est vrai que moi, quand les gens viennent me voir en post-opératoire et qu'ils arrivent enfin à respirer par le nez après des années où en fait il y avait un blocage respiratoire, je m'estime très, très heureux pour eux et ils le sont, donc je suis très content, même si c'est frustrant parce que mon travail s'arrête là quelque part.
Mais est-ce qu'il y a justement un moment précis qui t'a marqué, une rencontre où tu t'es dit, là, je suis content de faire ce que je fais ?
Oh, il y en a plein. Des belles histoires, il y en a beaucoup, heureusement, plus que des moins jolies. Le cas le plus typique, je dirais, c'est les parents qui remercient le chirurgien ORL d'avoir opéré leurs enfants des amygdales parce que l'enfant ronflait, l'enfant était fatigué, l'enfant grandissait pas bien, le langage était pas encore acquis. Et c'est vrai que cette petite intervention, qui n'est pas dénuée de risques, parce qu'il n'y a pas de petite chirurgie, attention, cette petite intervention change complètement la vie des enfants. Et c'est vrai que quand on les voit après, on les voit grandis. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Quand on recolle les oreilles des enfants, pareil, on leur restaure beaucoup de confiance en eux. On évite les moqueries sociales. Et il y a plein de belles histoires comme ça. Et j'espère qu'il y en aura encore plein.
Et si c'était à refaire, tu choisirais la même spécialité ?
Sans hésiter, oui. Parce ouais. que c'est un véritable couteau suisse, on peut vraiment se spécialiser dans plein de domaines différents et je pense que j'aurai plein de carrières dans ma carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très axé chirurgie, je pense que demain, je ferai peut-être plus de médical si je souhaite arrêter la chirurgie. Donc c'est vraiment une spécialité très large dans laquelle on ne s'ennuie absolument pas.
Est-ce qu'il y a quand même une chose que tu voudrais améliorer dans ton métier ?
J'aimerais avoir plus de temps, bien sûr, plus de temps pour répondre à plus de demandes. Aujourd'hui, on est vraiment face à une situation compliquée hein, dans notre travail, qui est la pénurie de médecins, et c'est pas fini. Clairement, on a encore quelques mauvaises années devant nous. Donc, on manque de temps pour voir les gens en consultation. Donc voilà, j'aimerais avoir plus de temps pour voir plus de gens et leur accorder parfois plus de temps. Les consultations peuvent parfois paraître rapides, et je l'entends, quand on a attendu 3 mois pour un rendez-vous, c'est compliqué de n'avoir que 10-15 minutes à passer avec son chirurgien, mais on a tellement de monde qu'on n'a pas forcément plus de temps, et c'est vrai que pour des questions banales, aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup plus de temps à accorder que ça.
Ok. Pour terminer, je voulais te proposer un petit jeu pour personnifier ton métier.
Allons-y.
Tu connais le portrait chinois.
Ok.
Donc... si un chirurgien ORL était un film
pas le Titanic en tout cas. Non, je pense que comme ça, je dirais Forrest Gump. Parce qu'il y a cette phrase que j'aime bien dans ce film, pardon, où il dit à un moment que la vie, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais ce qui va se passer. Et bah, moi, c'est souvent ce que je dis pour ma consultation, c'est que je sais jamais vraiment ce qui va m'arriver. Voilà, est-ce que je vais voir une oreille, est-ce que je vais voir un nez, est-ce que je vais voir un enfant, est-ce que je vais voir une personne âgée. Donc, je dirais Forrest Gump pour ça.
Bien trouvé. Si ton métier était un nombre ou un chiffre?
L'infini. Parce qu'il y a un nombre infini de possibilités de carrière, de spécialisation, de surspécialisation. Et c'est vraiment très, très propre à ma spécialité. Donc, en tout cas, un nombre élevé.
Et un sport ?
Alors, un sport, bonne question. Pareil, un sport, il faut être plus, sur plusieurs fronts. Je dirais peut-être le décathlon. Donc voilà, il faut savoir gérer un acouphène en consultation, opérer un nez, aller aux urgences pour changer une cannule de trachéotomie. Peut-être le décathlon. À la fois la précision et endurance.
Est-ce que, avant de se quitter, tu aurais un dernier conseil pour ceux qui souhaiteraient suivre tes pas ? Comment tu peux les ramener, les liguer à ta cause ?
Oh c'est compliqué parce que il y a beaucoup de gens qui essayent et peu d'élus. Faut s'y tenir, faut y croire, ça vaut le coup, c'est un beau métier qui demande beaucoup d'abnégation. C'est sûr que les choses ont tendance à changer aujourd'hui pour nous, mais quand même, c'est un métier passion, c'est un métier qui vaut le coup d'être fait et il faut s'accrocher. Il y a une ligne d'arrivée à un moment qui est vraiment là et c'est une belle carotte qui fait qu'on a un quotidien qui est très agréable et on ne s'ennuie jamais.
Visualiser son objectif et foncer.
Peut-être, ouais, c'est ça, en se disant que je parle surtout pour les étudiants en médecine là, qui ont parfois la tête dans le guidon, comme ça a été le cas pour moi pendant des années. Faut visualiser la ligne d'arrivée et vraiment croire en ce qu'on fait.
Un grand merci pour ton témoignage.
De rien, c'était un grand plaisir d'être avec vous.
J'espère que cette interview aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre ton métier et peut-être donner justement envie à certains de suivre cette voie. Merci beaucoup, Quentin.
Merci de m'avoir accordé du temps aujourd'hui.
On se retrouve très vite pour découvrir un nouveau métier. À bientôt.
Au revoir.
Calade.
Et tu fais quoi dans la vie ?
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.